Première.
Pierre-Étienne Joie.
On vient de l'apprendre, en Valais, le glacier du Birch vient de céder. Un peu plus tôt, le Conseil d'État valaisan a déclaré la situation particulière pour le Lötschental. Une décision prise en lien avec l'effondrement progressif du glacier du Birch qui surplombe Blatten. Il vient donc de rompre. Davantage d'informations dans les bulletins à venir. L'état-major convoque une conférence de presse dans une heure. Les attaques russes par drone dans la région de Kherson depuis juillet dernier sont des crimes contre l'humanité. C'est la commission d'enquête internationale sur l'Ukraine qui l'affirme. Elle estime que Moscou n'a pas cherché à éviter des meurtres de civils. Les victimes ont été ciblées alors qu'elles sortaient pour des activités normales. Les opérateurs de drones ont vu par vidéo que ces personnes n'étaient des civils, selon la commission. L'Allemagne va aider Kiev à produire à la fois en Ukraine et en Allemagne des missiles longue portée susceptibles de lui permettre d'atteindre le territoire russe en profondeur. Les ministres de la Défense ont signé aujourd'hui un protocole d'accord. Berlin n'est pas le premier pays occidental à franchir ce pas pour aider l'Ukraine à fabriquer des armes à longue portée. Le Royaume-Uni s'est déjà engagé dans un tel soutien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce la mort de Mohamed Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Vétéran des brigades Ezzedine El-Qassam, la branche armée du Hamas, Sinwar avait succédé l'an dernier à son frère aîné tué par l'armée israélienne. L'ex-chirurgien pédocriminel Joël Le Skouarnec a été condamné en France à la peine maximale de 20 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur près de 300 victimes, la plupart des patients mineurs au moment des faits. Cet homme aujourd'hui âgé de 74 ans a été qualifié de diable par l'avocat général, purgeant déjà une peine prononcée en 2020 de 15 ans de réclusion pour des violences sexuelles sur 4 enfants. L'ex-chirurgien viscéral est condamné pour avoir commis des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes de 1989 à 2014. Genève verse 396 millions de francs à la France voisine au titre de compensation financière pour 2025. Le canton avait redonné 372 millions en 2024. Cette somme provient de l'impôt à la source perçu sur les salaires des frontaliers travaillant dans le canton. Nicole Lamont sera la première femme à occuper le poste de porte-parole du Conseil fédéral de manière permanente. L'actuelle journaliste du Temps a été nommée au poste de vice-chancelière de la Confédération et chef de la communication du gouvernement. Nicole Lamont a notamment travaillé à la RTS entre 2001 et 2012. La Valaisanne de 53 ans remplace Ursula Eggenberger, vice-chancelière ad intérim. Dès le 1er juillet, vous pourrez lire sur les emballages de viande, les œufs ou le foie gras achetés si les animaux ont subi des douleurs pour arriver à ce produit fini. Le Conseil fédéral impose des informations supplémentaires sur la méthode de production. La météo, dégradation nuageuse depuis le nord-ouest et avec quelques précipitations déjà, peu à peu sur tout le pays vers le nord des Alpes et le Valais, accalmie dans la nuit, maximum 19 degrés, 22 en Valais. Demain, jeudi de l'Ascension, globalement bien ensoleillé, à signaler encore quelques nuages résiduels tout au nord et en direction de la Suisse alémanique, il fera 23 degrés. Et vendredi et samedi, ensoleillé, maximum 28 à 30 degrés, samedi, des premiers orages isolés possibles et dimanche, assez ensoleillé, lourd et orageux.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Dans le canton de Vaud, la route Bénien-Arzier-Lemuy reste fermée à la circulation suite à un accident. En revanche, la rue du Chêne, celle qui traverse la Sarra, vous voyez, elle est à nouveau ouverte. Pour le reste, des temps d'attente d'au moins trois quarts d'heure sont signalés. Sur le contournement de Genève, dès l'échangeur du Vengeron en direction de la France. Sur la 9, Lausanne-Valorbe, entre les Clés et la Douane, en direction de la frontière. Sur l'axe Genève-Aoste, l'attente au péage de celui qui est français, celui du tunnel du Mont-Blanc, se monte toujours à 1 heure. Et sur la 2, Lucerne-Casso, les colonnes à l'approche du tunnel du Gothard s'étirent cette fois sur 10 km, autrement dit plus d'une heure et demie d'attente.
Il est mondialement connu et reste pourtant un mystère.
He is the most famous artist in any point of art history.
Jusqu'au 29 juin à Beaulieu, Lausanne, plongez dans l'univers de l'un des génies de l'art urbain avec The Mystery of Banksy, A Genius Mind. Plus de 200 œuvres, graffitis, photos, sculptures et vidéos pour tout savoir sur Banksy, artiste peintre et graffeur né à Bristol. Véritable icône artistique. Plus d'informations sur mystery-banksy.ch.
Nobody has been that famous and yet invisible.
Retrouvez l'actualité culturelle dans Vertigo, du lundi au vendredi à 17h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Drôle d'époque.
Émilie Gasque, Pascaline Sordet. Et nous sommes avec Dunia Mirales. Qu'est-ce qui vient, Dunia, vous qui êtes écrivaine, qui travaillez quand même sur la société et sur nos vies qui s'entrechoquent les unes les autres, qu'est-ce qui vient vous percuter quand vous entendez les flashs d'infos et l'actualité en général en cette drôle d'époque?
Donc, une chose qui m'inquiète beaucoup, bon d'abord c'est la fragilité des démocraties, et aussi tout ce qui concerne les guerres. Pourquoi? Parce que je suis intimement persuadée que moi, je pense que je garde des traces de la guerre et de l'après-guerre d'un point de vue génétique, c'est-à-dire que la violence, que la maltraitance, enfin là je parle de la guerre, hein, puis il y en a quand même deux qui me viennent facilement à l'esprit, hein, dont on parle tous les jours aux infos, mais il y a toutes les autres, et le fait que ça puisse impacter pendant plusieurs générations, y compris dans des moments de paix, que l'on puisse avoir cette peur, cette violence qu'on transmet d'une génération à l'autre. Et je pense qu'il devrait y avoir une véritable prise de conscience à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que ça changerait quoi que ce soit, parce qu'en fait, on sait bien que les guerres sont souvent issues de plus de problèmes économiques que d'autres choses. Hein. Mais au niveau des soins, je pense, et des solutions après les événements, je pense que c'est des choses qu'on devrait mieux traiter, quoi. Même si maintenant on en a conscience.
De se dire que même si on l'a pas vécu soi-même, oui, on en est quand même victime.
Exactement. Je pense que cette violence, je dis la violence, mais ça peut être aussi la violence de la peur, hein, se transporte et se transmet. Qu'on l'emmène un peu toujours partout. C'est comme un problème, on dit, ben voilà, si t'as un problème, c'est pas le fait de partir en voyage qui va résoudre ton problème. Eh bien, je pense que qu'il y a des peurs, et surtout qui se transmettent par les gènes. Maintenant, on commence à le savoir que ça se transmet par les gènes. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Quand j'entends les infos, je me dis, mais ça va, on est déjà sacrifiés. On transporte la violence de tout le siècle précédent et de celui d'avant. Ça va encore durer pendant combien de temps? Y a-t-il vraiment une solution? Et vraiment, je ne vois pas de...
Enfin, il faudrait prendre en charge de notre humanité. Il n'y a pas de projet commun.
Non,
on n'a pas d'avenir ensemble.
Non.
On n'en est pas là. Mais non. On peut l'espérer.
Bah, on peut l'espérer, oui.
Bref, l'actualité se partage, se commente et se fait moquer aussi sur le réseau social Blue Sky. On s'y amuse, on s'y divertit aussi. Il y a de l'humour, de l'ironie, de la poésie. J'en ai trouvé un cette semaine sur l'Espagne.
Il est les écrit... meilleurs moments.
Ah non, c'est... non, 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 on doit revenir derrière. C'est... D'abord, je dois lire mon message. Remettons-le. Voilà, on a une petite dynamique. Donc, ce message, il a été écrit par Grumpf sur Blue Sky. Bonne nouvelle pour les personnes sans domicile fixe. Pour les personnes sans domicile fixe, en Espagne, en Catalogne, on leur offre désormais des cours de méditation pleine conscience. Alors, ils n'auront toujours pas de logement, mais ça les stressera moins.
Les meilleurs moments, c'est quand je sors de moi. D'ailleurs, j'adore... ne plus être moi. J'ai essayé beaucoup de techniques de méditation ou de défense pure et simple pour disparaître à moi-même, parce que quand tu regardes rien, tu vois tout. Thank you.
Et sur ce riff très rock'n'roll, whatever you want, qu'est-ce que vous aimeriez, Dunia Mireles? Si là vous pouviez avoir un vœu, ce serait quoi? Un vœu, hein, un seul. Puisque c'est toujours comme ça les vœux, on n'en a pas beaucoup.
Bah, là tout de suite, après les conversations que nous avons eues, j'ai envie de faire un vœu de Miss Monde, hein, la paix dans le monde.
Mais vous êtes parfaite en Miss Monde en plus.
Voilà.
Ça vous va super. Est-ce que vous aimez votre réalité de femme d'ailleurs? Oui, on a parlé des hommes, mais votre condition de femme qui est écrivaine, qui est à la chaux de fond, qui est amoureuse.
Ouais, mais en fait, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ma condition de femme parce que naïvement, je pensais que tout m'était accessible. Moi, j'ai eu la chance d'être éduquée par des parents qui ne me disaient pas « tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible ». C'est pour ça que j'ai cru que devenir écrivaine, c'était possible.
Ils travaillaient tous les deux, voilà. Aussi, il faut dire, aux parents.
Oui, ils travaillaient tous les deux, oui. Donc, après, j'ai commencé à connaître certaines difficultés. La même chose que c'est avec le recul que je me rends compte que certains des problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie étaient probablement dus à un délit de sale gueule, parce que maintenant, ça se voit pas. Mais quand j'avais 17 ans, j'avais vraiment un côté très... nord-africaine, donc. Hein. D'ailleurs, on pensait souvent que j'étais métisse. Mais moi, je pensais que le problème venait d'ailleurs. Je ne pensais pas que c'était un problème dû à du racisme ou à de la xénophobie. Voilà, quoi. Je pensais toujours, en fait, que c'était moi qui n'étais pas à la hauteur, si quelque chose ne jouait pas, quoi.
Est-ce qu'avec cette liberté que vous aviez d'être vous-même, vous vous êtes tatouée?
Oui.
Ah ah, c'est la séquence révélation. Alors, quels sont vos tatouages, si vous voulez nous en parler?
Alors, il y a deux tatouages dont je ne parlerai pas.
Ah, bah cela nous intéresse particulièrement.
Non, mais en général, mes tatouages, ce sont... j'en ai... Alors, le premier tatouage que j'ai fait, c'était quand même à 15 ans. Alors non, en fait, j'en ai 5. C'était... J'ai piqué de l'encre à l'école et puis je l'ai carrément fait à l'ancienne. Je me suis fait tatouer, ça se voit encore un tout petit peu là, un mort aux vaches. Juste là sur le coin de la main, ça se voit. C'est très léger, mais ma mère, elle l'a vu tout de suite. Hein, alors
Une maman, elle, quoi.
Voilà, une maman. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, mais elle a remarqué.
Dans un petit encrier comme ça, scolaire, là.
Oui, oui. Oui, là, j'en ai piqué un tout petit peu. J'ai pas piqué l'encrier parce que j'étais quand même presque une enfant sage, presque. et puis ça, elle l'a vu tout de suite. Elle m'a fait un scandale. Et puis après, j'ai attendu 36 ans pour faire mon premier vrai grand tatouage. Et quelque part, d'abord, c'était une façon de dire. C'était de la protection que je voulais, mais donc j'ai un tatouage qui est un tatouage pour avoir accès, à l'invisible, c'est le dernier. Les trois autres, ce sont des tatouages de protection. Alors là, par exemple, je peux en parler. Là, sur le bras gauche, j'ai une harpie avec un rat. Alors le rat, c'est parce que pendant longtemps, j'ai élevé des rats, donc des rats domestiques, et pendant une dizaine d'années, et que je me suis tatouée le magnifique, c'est comme ça qu'il s'appelait, le magnifique sur le bras gauche, surmonté d'une harpie qui est très méchante avec les gens qui sont mauvais avec moi. Ils ne le savent pas, mais elle envoie des sorts. Et puis, sur ce même bras, à l'intérieur du bras, sous l'aisselle, je me suis tatouée quelque chose qui a un rapport avec l'invisible. C'est-à-dire que c'est pour avoir accès à l'invisible, mais à l'invisible... pas forcément ésotérique, quoique, peut-être aussi un petit peu, mais surtout d'un point de vue, pour pouvoir saisir ce qui est invisible en tant qu'écrivaine, hein, c'est pour
percevoir.
Pouvoir écrire, percevoir capter, on va dire plutôt la psychologie des gens, une ambiance, etc. Quoi.
Ça marche ? Vraiment une fonction.
Oui, c'est ça. C'est ça. Bonjour, alors moi, je vais me rajouter ce bouton-là. Merci, Tania Mirales, de nous avoir parlé de vos tatouages. Toutes les semaines, on a quelqu'un qui le fait aussi dans notre petite chronique dédiée.
Qu'est-ce qu'il a dans le dos ?
Un tatouage. On dirait une reproduction de la Modigliani.
Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction ?
Tatou ?
Oh, what a body !
Tatou dit.
Bénédicte a 49 ans et elle a fait son premier tatouage à
48.
Ah mais non, vous êtes tatouée l'année dernière.
Le jour de mes 48 ans, c'était mon cadeau que je me faisais.
Oh, mais alors vous y avez pensé comment un tatouage pour un anniversaire de 48 ans?
C'est une merveilleuse histoire qui s'appelle la famille Ficelle, famille de cœur qu'on s'est créée à l'origine à Paléo. Et bah avant, on se voyait qu'à Paléo. Et puis, bah, quand il y a eu le Covid, on s'est vu autrement et on a réalisé qu'on s'aimait beaucoup plus que ça. Et on a vraiment, voilà, je suis la maman de cette famille. Et puis, dans mes enfants, il y a une tatoueuse. Et puis, voilà, quand Paléo a été annulé, on avait tous notre semaine, donc je les ai invités dans ma maison. On s'est fait notre petit Paléo à nous, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on aimait à Paléo, c'est être ensemble. Bien sûr, les concerts et tout ça, mais ce qu'on aimait, c'était être ensemble. Donc, on a passé un merveilleux moment. Et pour ça, ils m'ont fait la surprise. On avait fait un mini-festival, et elles ont créé un logo, donc un cœur en ficelle, en lien avec la famille Ficelle. Et puis ça a traîné dans ma tête, ça a traîné dans ma tête. Et puis, voilà, on en a discuté avec Noémie, qui est tatoueuse. Et puis on s'est dit pourquoi pas. Puis voilà, mon cadeau, je me suis décidée. Ça a mis un petit peu de temps. C'est le premier. Je pense que ça sera peut-être le dernier d'ailleurs. Mais c'est marrant qu'on dise le premier. Hein. Tout le monde dit le premier, donc ça veut dire t'enchaînes. Enfin, de toute façon, moi, il fallait qu'il y ait un sens. Et ce sens-là, il est merveilleux pour moi d'avoir la famille Ficelle tatouée sur moi.
Mais alors, quelle est-elle, cette famille Ficelle qui se retrouve tous les ans au Paléo, quand il y a Paléo? Vous êtes combien? Il y a qui?
Alors, il y a papa, qui maintenant est... On est séparés, mais en très bons termes. Qui maintenant est papa, aussi, dans la vraie vie. On a trois enfants naturels, donc Didi, Marie et Mimi. Et puis après, on a adopté Sophie, Noémie. Et puis après, on a eu des jumelles, Leïla et Anaïs. Et Anaïs, c'est la dernière, on a dit on arrête. Parce que, voilà, elle est... on a arrêté parce qu'après, ça n'avait plus de sens. Et puis, on a des tatas... Et ouais, c'est fou, on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait dans la vie et quel âge on avait, mais presque 4-5 ans après s'être connu, en fait. C'était pas la priorité, et ça, c'est magique.
Ils se sont plein d'âges différents.
Ah ouais, non, je pourrais être la mère de mon ex. Il n'y a pas du tout d'âge, il n'y a pas du tout, c'est pas les liens qu'on s'est donnés, maman, papa, machin, tout ça, c'est plus en tant que personne, mais pas en tant qu'âge ou origine ou quoi que ce soit. C'est parce que j'étais, alors, maman, parce que j'étais la plus âgée, et quand on a créé, parce qu'il n'y avait qu'un seul mec, donc c'était papa. Voilà, c'était...
Et c'est venu comme ça, vous entendiez tellement bien que vous vous êtes dit, mais nous sommes une famille.
C'est le lundi à Paléo, pour ceux qui passent la semaine à Paléo. On arrive le lundi pour s'installer, faire notre campement et tout ça. Et la première soirée, on est forcément tous ensemble puisqu'il n'y a pas de concert. Et c'est là qu'on est parti sur un délire. Je pourrais pas. Et en fait, c'était notre premier campement et c'était une catastrophe. On s'était dit, on met un véhicule, on met un autre, on met une bâche. Et notre campement, il est magnifique. Sauf qu'au fur et à mesure de la soirée, la bâche tombait. Et donc, pour la relever, on a mis plein de ficelles, comme une araignée de ficelles, en fait. Et donc, dans le délire de la soirée, oh, on est comme une famille, il y a papa, maman. Ouais, d'accord, mais on s'appelle comment? Je sais pas, la famille, et là on lève le nez, on voit plein de ficelles. Donc, voilà comment c'est né. Et c'était un délire. Et aujourd'hui, je réponds à maman dans la rue ici, c'est un de mes enfants de la famille, et je suis pas mère naturelle. Quand il m'appelle dans la rue, c'est un truc de fou.
Ah, mais ça rapproche une semaine de Paléo. Hein.
Ouais. Ça s'est créé, on était cinq au début, puis après, voilà, c'est d'amis en amis, puis c'était du feeling. Enfin, voilà, un truc. C'est aussi un peu l'esprit paléo à la base. Moi, j'adore cette planète où on peut être de tous les styles, de tous les genres, et puis c'est OK. Voilà, c'est assez impressionnant d'avoir un endroit aussi rempli de bienveillance. Et on est tous là pour la musique et s'amuser. Et puis, je crois qu'on avait ça en commun, plus sûrement autre chose. Je sais pas, une étoile qui nous a réunis.
En tout cas, de la ficelle.
Ah, alors ça, c'est clair. Il y a toujours un petit brin de ficelle quelque part.
Et comment vous le trouvez, votre tatouage, alors?
Bah, je le trouve merveilleux. En plus, il est vraiment magnifiquement fait. C'est un cœur qui est créé avec de la ficelle, en fait. un cœur en ficelle. C'est un truc fort qui est arrivé dans ma vie et qui existera à mon avis toute ma vie. Je suis grand-maman maintenant. On a grandi la famille, donc, enfin mamie ficelle je m'appelle. Donc voilà, c'est assez magique et fort. Ça rassure dans l'humain où on peut créer des liens, ça crée une communauté complètement
libre,
ouais,
gratuite,
entièrement, avec des personnalités comme dans une famille, la tête en l'air, la bricoleuse. Donc c'est vrai que c'est magique et j'ai hâte d'être à Palais.
Chacun son tatouage et chacun son histoire de tatouage et chacun son campement aussi, avec ficelle ou pas de ficelle. Nous sommes avec l'écrivaine Denia Miralles qui nous raconte dans Caravelle du Seillon, paru chez Livréo, et je vais jamais y arriver ou quoi. Et Alphil, hein, ça fait
Livréo
deux fois.
Alphil.
Livréo Alphil. Donc paru chez Livréo Alphil, qui nous raconte l'histoire de ses origines et de ses parents, en fait, émigrés espagnols, les années 60-70, mais aussi l'histoire de centre espagnol, de ce centre espagnol. J'ai trouvé très touchant, comme vous en parlez, vous dites « personne ne voulait de cette marabunta ibérique criarde qui ingurgite de la friture de mollusques ». Donc, il y avait une lutte totale de la part de ces travailleurs espagnols qui avaient besoin de se créer un univers à eux et qui ont dû le construire à la sueur de leur front. Enfin, ils ont mouillé la chemise pour ça, hein.
Ah oui, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une grande participation de tous les... Ben, peut-être pas de tous, mais d'une bonne partie des immigrés espagnols de Neuchâtel pour créer l'un des centres espagnols, celui qui était le plus important par la suite, parce qu'il y avait eu déjà plusieurs tentatives, mais il fallait changer de lieu, etc. Et puis... Non, personne ne voulait de cette marabunta. Moi, je suis frappée par une chose, c'est que souvent, quand on demande à des personnes qui ont migré, ce qui leur manque le plus, souvent elles disent c'est la cuisine.
C'est sûr.
Et à l'époque, ici en Suisse, vraiment, la cuisine espagnole était vraiment très, 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 très mal vue, quoi. Parce que, à l'époque, on cuisinait pas du tout à l'huile d'olive, ici. Et que ces bouffeurs d'huile d'olive, ça
dérangeait.
Pas. Ça dérangeait, quoi. Donc voilà, oui. Et puis, tout le monde s'est réuni. Enfin, c'était vraiment un grand moment qui était très beau. Moi, je me souviens surtout, de la partie, à l'époque, j'avais 6, 7, 8 ans, 9 ans par là autour. Hein. Enfin, je veux dire, parce qu'il y a certaines choses qui se sont faites sur plusieurs années. Donc, moi, les souvenirs que j'en ai, c'est surtout qu'il y avait aussi, ce centre espagnol avait une vocation culturelle. Et je me souviens surtout des spectacles auxquels j'ai participé. Et là, je me suis découvert une véritable vocation d'artiste. J'aimais beaucoup la scène quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup réciter des poèmes sur scène. J'aimais danser. J'aimais voir des spectacles aussi. Et je pense que le Centre Espagnol a beaucoup contribué à l'artiste et l'écrivaine que je suis devenue par la suite. Il y avait une énorme bibliothèque. Mon père me ramenait des livres, me ramenait des BD de cette bibliothèque. Ça a aussi contribué à mon apprentissage de la langue espagnole, puisque je lisais puisque les livres étaient en espagnol. Et voilà, j'ai une assez bonne orthographe, une assez bonne. Je pense qu'elle est même Ouais, tout à fait honnête. Mon orthographe espagnole.
Vous écrivez également en espagnol?
Alors, en tant qu'écrivaine, non. J'ai écrit des petites choses, mais disons, je me lancerai peut-être pas pour le moment dans l'écriture d'un roman en espagnol. D'ailleurs, j'en vois pas la nécessité, puisqu'en fait, je suis une auteure suisse romande et que mes éditeurs sont en Suisse romande. Donc, je vois pas vraiment l'utilité d'écrire en espagnol. En revanche, ce que j'aime beaucoup, et ça, c'est pour en revenir au travail que je vais faire sur
la
langue en Suisse alémanique, c'est de faire des liens entre les langues. Et pourquoi mon intérêt, le livre que j'ai l'intention d'écrire à Winterthur, C'est que j'ai souvent entendu dire des romans, ah non, mais moi j'aime pas l'espagnol, ah, ça me fait penser au suisse allemand. Ça crache, ça gratte. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, le suisse allemand, c'est une langue intéressante, là, si c'est, si elle a les mêmes sons qu'en espagnol. Hein. Et donc, en fait, c'est essayer de faire des liens entre différentes langues, comme par exemple, moi je considère que le français, c'est une langue qui transporte assez mal les sentiments, parce que c'est une langue trop précieuse. Une langue avec laquelle on met la bouche en cul de poule. Je trouve que quand on dit je t'aime en français, c'est moins intense, par exemple, qu'en espagnol.
Dites-le.
Alors, en espagnol, c'est te amo ou bien te quiero. Alors, souvent on dit te quiero, alors c'est un petit peu qui veut dire je te veux. Donc là, il y a des choses qui peuvent être discutables, mais je trouve que dit comme ça, effectivement, ça
passe. Il y a plus de corps dans le te amo.
Oui, il y a plus de corps, et je pense par exemple qu'il est plus facile de faire du théâtre en espagnol qu'en français.
Le corps est plus mobilisé. Oui, certainement. En tout cas, merci beaucoup, Dunia Mirales. Vous publiez Caravelle du Seillon chez Livreo Alphil. C'est un très joli récit entremêlé de l'histoire avec un grand H, de toutes vos histoires avec des petits H, de tous les personnages de votre vie, de Neuchâtel, de cette communauté espagnole qu'on connaît mal et qui a tant fait pour la Suisse et pour l'Espagne également. Merci infiniment. Bon retour à la Chaux-de-Fonds. Merci Pascaline Sordet.
Merci Émilie.
À mercredi prochain. Merci Sacha Unger qui est en régie. Merci à Stéphanie Jovanovic qui assure la programmation musicale et Cécile Claire qui est notre attachée de production. Et nous quittons la pluie du canton de Vaud pour, j'espère, enfin j'imagine, rejoindre le soleil de Lugano. Salut Anouk.
Salut. Vous allez bien?
Mais oui, on va bien.
Bah oui, j'ai la chance d'être accueillie par nos collègues de la RSI pour faire une émission sur le Tessin, pour en savoir un tout petit peu plus sur ce canton du sud des Alpes.
On n'est pas du tout jalouse, hein. Franchement.
Non, pas du tout. À bientôt les filles.
Bisous.
Allez, ciao.
Depuis 15 ans, le Palp Festival fait vibrer les montagnes et secoue les sommets. Plongeons givrés en lac d'altitude, musique et expo à l'ombre des châteaux, rock'n raclette sur les crêtes ou encore concert à 3000 mètres. Jusqu'au 20 septembre, découvrez le plus insolite des événements valaisans. Plus d'informations sur palpfestival.ch.
Le Grand Soir.
Retrouvez l'événement qui décoiffe dans Le Grand Soir du lundi au jeudi à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Pourquoi on parle que italien et intestin?
Brouhaha.
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 Ça veut dire quoi, brouhaha?
Ça veut dire du bruit.
Du boucan.
Brouhaha.
Brouhaha. Anouk Merz.
C'est vrai, Sophie-Élise, nous sommes nombreux à nous poser la même question que toi. Pourquoi est-ce qu'au Tessin, on parle l'italien? Eh bien, on va en apprendre plus cet après-midi sur ce canton du sud des Alpes où, je dois vous le dire, il a l'air de faire bon vivre. En tout cas, je suis très bien accueillie ici par nos collègues de la RSI, du studio Lugano. Il fait beau, il fait chaud et j'ai vu sur mon chemin pas mal de palmiers et j'ai même, me semble-t-il, senti des odeurs de jasmin. Alors, avant d'écouter notre invité répondre à toutes vos questions, les enfants, eh bien, je vous propose d'appeler Milidée. Coucou, c'est moi Milidée. La famille d'Arthur, Élise et Elliot discutent de leurs prochaines vacances. Chacun a des idées et des rêves. Mais quelle destination choisir? Tu es bien installée? Je vais te raconter.
C'est l'histoire de Milidée.
Confortablement installée autour de la table pour le repas du soir, la famille d'Arthur, Élise et Elliot est en grande conversation.
Alors, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire?
Au programme de la discussion, l'organisation de leurs prochaines vacances. Ah bah oui, on pourrait partir une dizaine de jours. La question est de savoir où, lance la maman.
Bon, alors moi, ce que je veux, c'est du soleil. Ah non, mais j'en peux plus de ce temps gris.
Se plaint le papa alors que la pluie tambourine contre les vitres du salon.
Oh, ras-le-bol.
Ah oui, du soleil et des palmiers. Je me vois déjà allongée sur un transat en train de siroter des cocktails de jus de fruits vitaminés. Oh, ça va être trop bien. On pourrait peut-être à Maui partir sur une île perdue au milieu de l'océan Pacifique,
propose Élise.
Ah non, ah non, moi je refuse de prendre l'avion. Question de conviction. Bah je sais pas, je préfère un moyen de locomotion plus écologique,
s'exclame Arthur, son grand frère.
Mais si tu préfères nous rejoindre sur notre île paradisiaque en bateau, à la rame, tu devrais peut-être partir maintenant. Ça va te prendre du temps,
ironise sa sœur. Oh, du calme, les grands. Vous n'allez pas vous chamailler, s'il vous plaît. On parle de vacances. Les vacances, c'est joyeux. Bon, alors, et toi, Elliot, qu'est-ce que tu as envie de faire ou de voir pendant tes vacances? Demande la maman à son plus jeune fils. Elliot réfléchit.
Est-ce qu'il y aurait encore un endroit où on pourrait voir de vrais dinosaures en chair et en os en écaille?
La famille éclate de rire.
Oh, désolé, mon chéri, mais là, ça ne va pas être possible. Il n'y a plus de dinosaures sur Terre. Mais tu aimes plein d'autres choses, non? Qu'est-ce que tu voudrais voir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Allez, dis-moi.
Moi, j'aime bien les constructions.
Bah, super! Alors on va partir en vacances sur un chantier. Ça va être trop l'éclat, ton truc,
ironise Arthur. La maman jette un regard sévère à Arthur, puis se tourne à nouveau vers Elliot.
Quel genre de construction est-ce que tu aimes?
Les châteaux. Ah oui, j'aimerais voir des vrais châteaux avec des chevaliers.
Alors, les chevaliers, je ne sais pas si ce sera possible, mais je note les châteaux,
déclare la maman en écrivant dans son carnet.
Ah ouais, moi, pendant les vacances... j'aimerais bien poursuivre mon entraînement. Donc, il me faut un endroit pour courir. Et attendez, pas que sur du plat, quoi. Faut que ça monte, que ça descende. Je veux faire du sport à fond,
explique Arthur. C'est noté, sourit sa mère.
Moi, je n'ai pas envie de courir, mais de nager. Et si possible aussi, en admirant des palmiers et des fleurs exotiques. Quand on part en vacances... Moi, j'aime bien que le paysage y change,
ajoute Élise.
Ah oui, moi aussi, alors je suis comme toi, ma chérie. J'ai envie de dépaysement. Voir du beau, voir du grand, des paysages colorés, aussi des vues à couper le souffle. En fait, j'ai envie d'en prendre plein les yeux,
précise le père. Ah, très bien. Eh bien, alors je note cela aussi, déclare la maman en remplissant déjà la deuxième page de son carnet. Je crois que c'est bon, là.
Ah non, j'ai encore un détail. Je voudrais que mes yeux soient enchantés par des paysages grandioses, ça j'ai dit, mais aussi que mes oreilles, elles entendent une autre langue. Ouais, ça c'est dépaysant, quand on ne comprend plus rien à ce que disent les gens. Ouais, j'aime bien. Et faut pas oublier non plus mon estomac, hein. Ah non, je veux que mon petit ventre soit content et découvre de nouveaux plats délicieux. Ça me donne déjà faim, miam.
Sourit le père en se frottant le ventre.
Et toi, mon amour, qu'est-ce qui te ferait plaisir alors pour ces vacances?
Ajoute-t-il en regardant sa femme. Elle passe en revue tout ce qu'elle a écrit et elle ne sourit plus vraiment. Pire, elle grimace.
Moi ? Ce qui me plairait, ce serait de trouver une solution pour contenter tout le monde. Et j'ai bien l'impression que ça va pas être si simple. Vous avez des envies si différentes.
Le repas se poursuit. Chacun continue de penser à ses vacances.
Il faudra pas oublier de mettre ma tenue de chevalier dans la valise. Je la porterai pour visiter les châteaux,
s'exclame Elliot.
Je vais prendre ma montre de sport qui me dira combien de kilomètres j'ai parcouru en montée et en descente. C'est hyper important,
ajoute Arthur.
Faites-moi penser à prendre absolument une crème solaire efficace dans l'eau. Sinon, je vais rentrer rouge comme une tomate.
S'affole Élise.
Et moi, je dois penser à me racheter des lunettes de soleil,
déclare le père. Quant à la mère, elle ne dit rien. Elle relit son carnet avec toutes les demandes de la famille et elle soupire en chuchotant.
Mais quel casse-tête! Mais quel casse-tête!
Heureusement, la nuit porte conseil. Tandis que la famille s'est assoupie, le cerveau de la maman est entré en ébullition. Et au petit matin, quand elle se réveille très tôt, elle surprend toute la famille en annonçant triomphalement.
J'ai trouvé la destination de nos prochaines vacances!
Mais ce sera où?
Alors, c'est où qu'on va?
Demandent en chœur les enfants.
Surprise!
Les semaines passent. Quand enfin le jour du départ arrive, c'est dans un train que la famille embarque.
Direction le Tessin, annonce la mère.
À peine arrivée, Le soleil est au rendez-vous et la langue italienne vient chatouiller les oreilles du père.
Ah, comme c'est agréable. Ah, c'est trop bien. Merci, enfin. Grazie mille, je veux dire.
Le premier jour, il visite Morcote, un joli village de pêcheurs. Élise en profite pour faire un petit plouf dans le lac de Lugano.
Waouh ! Elle est délicieuse ! Je pourrais nager des heures !
Arthur décide de faire un footing en montant à toute vitesse les 400 marches qui mènent à l'église du village.
Oh là là ! Waouh, ça monte !
Quant à Elliot, il admire les maisons colorées des pêcheurs.
Oh, j'adore toutes ces couleurs ! Ah tiens, je pourrais faire un dessin pour chacun de vous.
Le papa vient de commander un cappuccino bien crémeux.
Oh là là, c'est si bon. Oh, cette mousse. Ah, il est délicieux,
déclare-t-il en buvant une gorgée. La mère sourit. Elle a réussi à trouver des vacances de rêve pour tout le monde.
Oh, Ticino, Ticino.
Le soir, la famille se retrouve autour d'un repas. Il y en a pour tous les goûts. Au menu, de la polenta, des funghi, un salametto, mais aussi du risotto et de la pasta. Et bien sûr, du pain tessinois. Et en dessert, la fameuse torta di pane.
Miam. Ah, c'est trop bon.
Buonissima, tu veux dire. C'est comme ça qu'on dit.
C'est trop cool. Ces vacances, elles sont géniales.
Et vous n'avez encore rien vu. Ces prochains jours, on va visiter le château de Montebello à Bellinzona. On ira aussi dans le Val Verzasca, admirer la construction d'un immense barrage. Oh, et l'endroit est célèbre, car ils ont tourné des films de James Bond là-bas.
Waouh, et trop bien.
Mais oui, je t'assure. Et on fera aussi l'ascension du Monte San Salvatore. Et les plus sportifs, eh bien, pourront monter en courant.
Ah oui, alors moi.
Se réjouit Arthur. Et les plus fatigués, ou les fainéants, eh bien, pourront prendre le funiculaire.
Moi, je prends cette option-là,
annonce Élise. Oh, et on ira aussi sur les îles de Brissago, admirer le jardin botanique où poussent de nombreux arbres et fleurs exotiques.
Oh merci, ça va être trop beau. Je vais faire des milliers de photos.
Ces vacances vont être géniales, je crois,
déclare le papa.
C'était vraiment une très bonne idée de partir dans le Tessin. Attends, tu veux dire une idée fantastica.
Meravigliosa. È troppo bello il Ticino. Grazie, mamma. E anche grazie, papà.
Voilà, c'était l'histoire. L'histoire de mille idées.
C'était une histoire écrite par
Christine Pompéi,
racontée par
Anouk Mertz,
mise en musique par
Sandro Lichy.
Et merci, Milidée. Oh, mais je t'en prie. Tu le sais bien, Anouk, j'adore raconter des histoires. Bon, allez, je te laisse. J'ai les dents qui me démangent. J'ai envie d'aller sculpter un bout de bois. Mais dis donc, t'as des fois des drôles d'idées, Milidée. Bon, allez, bonne semaine, beaucoup de plaisir. Et nous, tout de suite, eh bien, on va écouter Pelle di Luna avec Tatum Rouge.
Ho la pelle di luna, ho passato ben troppe serate con te, ne bastava anche una. Ho esplorato gli abissi più scuri di te, occhi verde laguna. Ti ho rivista sul ponte di un minigolf, no, non chiedermi scusa. Cercheremo per sempre la perla più rara. La
Rush. C'est comme ça qu'il faudrait dire. Heureusement, Robin est là pour me corriger. Robin qui est dans le studio de la RSI où nous sommes très bien accueillis à Lugano. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on parle du Tessin. Et j'ai le grand plaisir de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Patricia Carminati, bonjour.
Buongiorno. Buongiorno, ciao.
Vous êtes présidente des guides de Suisse italienne. Et puis, on va essayer avec vous de faire un peu le tour sur ce canton du Tessin. Et je vous propose qu'on continue, qu'on y aille directement avec les questions des enfants. C'est parti.
Salut Brouhaha, je m'appelle Sophie Elise. Combien y a-t-il de gens dans la population?
Combien de personnes vivent au Tessin?
Alors, ciao Sophie. Bonjour. Alors, à peu près, pour vous donner une idée, il y a, bon, si, je sais pas si vous habitez à Lausanne, mais dans tout le Tessin, il y a 330 000 habitants, c'est un peu plus de le double des habitants de Lausanne, hein. Voilà. À peu près.
On continue avec Gabriel.
Bonjour, je m'appelle Gabriel. Comment le Tessin a-t-il pu exister?
Ah. Pas simple, hein.
Ça,
on va voir ce que la guide peut nous dire.
Oui, c'est difficile, ça, hein. Mais il faut penser qu'on était une petite région et isolée du reste de Suisse, parce qu'on avait les montagnes au milieu qui nous séparaient du reste. Alors, ouais, c'était une région qui était un peu isolée du reste de la Suisse, et ça a toujours existé.
Ça a toujours appartenu à la Suisse, le Tessin?
Non. Non, absolument. C'était un peu comme une tranche de jambon dans un sandwich. Parce qu'on était entre deux régions très importantes. Le nord de la Suisse et le nord de l'Italie. Alors, on était au milieu. Et on devait un peu décider si appartenir à la Suisse ou aller vers le sud, vers l'Italie.
On va continuer avec Sophie Elise.
Salut, Brouhaha. Je m'appelle Sophie Elise. Comment s'appelle le président?
Comment il s'appelle le président?
Le
du
président.
Ou la présidente?
Oui, non, il s'appelle Christiane. Christiane, c'est le président maintenant du Consiglio di Stato, hein, dans notre capitale, Bellinzona.
Du Conseil d'État. Dans chaque canton de Suisse, il y a un ou une présidente du Conseil d'État. Dans le canton de Vaud, on connaît Christelle Luisier, etc. Oui. Et là, bah voilà, qui siège à Bellinzona, c'est là qu'il y a le gouvernement.
Le gouvernement cantonal, voilà, à Bellinzona, hein, notre capitale.
Et on a le grand plaisir cet après-midi dans Brouhaha d'accueillir Charles. Ciao Charles.
Salut.
Tu vas bien?
Oui.
Est-ce que toi, tu as déjà eu la chance de venir au Tessin?
Non, mais mes grands-parents habitent en Italie, juste à côté.
Ah, juste à côté. Bah écoute, on écoute ta question, Charles, vas-y.
Pourquoi au Tessin parle-t-on italien alors qu'on est en Suisse?
Ah, je sens que cette question va nous occuper un petit moment, Patricia.
Eh oui, alors, on parlait avant des Alpes, hein, les montagnes qui nous séparent. Il faut imaginer que maintenant, on a les tunnels, on a les hélicoptères, les avions, les trains, mais dans les passés, c'était pas comme ça. Alors, on est complètement isolé. On n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone. Alors, les gens ne pouvaient pas communiquer avec les autres. Et c'est pour ça qu'ici, étant donné qu'on était tout près de l'Italie, et on était dominé aussi par les ducs de Como et de Milan, on parlait l'italien. Alors, c'est pour ça, on était isolés, et les Alpes comme un barrage naturel.
Mais pourquoi est-ce que les Tessinois n'ont pas choisi d'être rattachés à l'Italie, d'être au fond des Italiens, et pourquoi est-ce qu'ils sont, pour finir, des Suisses, mais de l'autre côté de la montagne?
Ah, bon, ça, c'est une longue histoire, mais on peut dire que les Tessinois ont voulu faire partie de la Suisse, parce que faire partie de la Suisse, et on est un canton suisse depuis 1803, et ils nous donnaient des garanties. La Suisse, on nous donnait ces garanties de pouvoir faire partie d'un pays tous ensemble. Alors nous, nous sentons suisses, même si on parle italien. Mm-hmm. On a cet sentiment d'appartenir à notre belle confédération suisse.
Mais pour être très clair, est-ce que le Tessin a été à un moment donné dans l'histoire une région de l'Italie?
Pas vraiment, non. Parce que l'Italie n'existait encore. N'existait pas encore. Alors, c'était seulement dominé par les ducs de la ville de Como et de Milan. Mm-hmm, alors, c'était une partie de Lombardie, de la région de Lombardie.
Ça te va, Charles, comme réponse?
Oui.
Bon, ben on t'embrasse et puis on espère que tu vas pouvoir profiter une fois de venir, quand tu es chez tes grands-parents en Italie, de venir faire un petit saut de l'autre côté. Allez, ciao, bisous. Et nous, on continue avec Kazuo.
Bonjour, je m'appelle Kazuo, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir, est-ce qu'on parle un différent italien qu'en Italie?
Alors, c'est la même langue, mais on a parfois, on utilise des mots qui arrivent peut-être de français ou d'allemand, des mots qu'on n'utilise pas en Italie. Et il y a des gens qui parlent encore un dialecte, le tessinois. Et par exemple, la madame, on dit signora en italien et on dit sciura en dialecte. Mais c'est, bien sûr, c'est la langue officielle italienne comme en Italie. Il y a des mots différents à peu près. Parfois.
Est-ce que justement cette langue tessinoise, le patois, est-ce que les jeunes l'apprennent ou est-ce que c'est plutôt les personnes âgées ou bien est-ce que c'est une bonne manière de dire on n'est pas italien, nous?
Et non, je pense que c'est plutôt mes arrière-grands-parents, par exemple, ils parlaient et aussi parfois mon père, mais ils ont toujours parlé italien avec moi. Mais c'est toujours quelque chose qu'on fait toujours la différence. On dit on est suisse, on est tessinois, on n'est pas italien, même si on parle la langue.
Et on retrouve Sophie Élise.
Salut, Broua, je m'appelle Sophie Élise. Ça veut dire quoi, Tessin?
Ça veut dire quoi?
Alors, Tessin, c'est Ticino, c'est le nom de la rivière. Il y a une rivière qui traverse notre canton et c'est la seule plaine qu'on a au Tessin. Et là, il y a toute la région de l'agriculture grâce à cette rivière Ticino.
Et on retrouve Gabrielle.
Comment les humains vivaient au Tessin en 1937?
J'adore cette question, c'est hyper précis. En 1937,
Alors, je pense que c'était avant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et il faut penser, je parlais avant, qu'on était isolés. Mais en 1882, on a eu le premier train qui a traversé les Alpes. Alors, en 1937, c'était déjà, les dessins n'étaient plus isolés et on avait des grands hôtels, les premiers touristes et arrivés avec le train. Alors, c'était une belle époque, hein, avec des attractions touristiques, les palmiers aussi.
Donc ce tunnel, c'était le Gotthard?
Non, c'était le premier train qui arrivait. Hein. Maintenant, on a le Gotthard, qui c'est bien sûr, on est encore plus proche. C'est le tunnel le plus long du monde.
Hein. Et à quoi ressemblait la société en 1937? Est-ce qu'il y avait beaucoup de travailleurs ouvriers? Est-ce que c'était très semblable à l'Italie? Très semblable au reste de la Suisse? Est-ce que l'Europe, au fond, était un peu partout pareil? Est-ce que le Tessin se distingue du reste ou pas?
Et à l'époque, je pense que ça ressemblait plutôt à l'Italie. Hein. Il y avait beaucoup des gens qui travaillaient, et même aujourd'hui, beaucoup des gens aussi de l'Italie qui émigraient dans le Tessin pour travailler.
On continue avec Elliot.
Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 13 ans. Pourquoi il fait autant chaud au Tessin?
C'est un connaisseur qui parle.
Alors, je parle encore des Alpes. Ce sont les montagnes qui nous isolaient au passé et maintenant nous protègent du vent froid qui arrive du nord. Alors le vent froid reste bloqué dans les montagnes. Alors on a cet microclimat, c'est plus chaud et aussi il faut penser qu'on avait aussi un dinosaure qui s'appelait Ceresiosauro. Alors il y a une partie du sud du Tessin qui appartenait aussi à l'Afrique. Mais aujourd'hui, cette température qu'on a, c'est grâce aux Alpes qui nous protègent du froid du nord.
Et qui fait qu'on peut avoir une végétation un peu différente. J'ai évoqué les palmiers que j'ai pu voir en venant ici au studio de la RSI, des odeurs de jasmin. C'est des senteurs qu'on n'a pas forcément de l'autre côté des Alpes au nord.
C'est vrai, dans un autre petit pays, on peut vraiment dans 2 heures changer complètement la langue, l'architecture, la végétation.
Et décidément, Sophie Élise, elle était en forme aujourd'hui. Elle a encore une question.
Est-ce qu'il a des montagnes en Tessin? Au revoir, bisous.
Alors, vous avez évoqué les Alpes qui font cette barrière.
Oui,
mais sinon, le paysage, il ressemble à quoi pour que les enfants puissent s'imaginer? Il y a beaucoup, beaucoup de montagnes, de collines, c'est escarpé?
Oui, il y a ce qu'on appelle les présalpes, des Alpes lépontines. Alors, ce sont des montagnes un peu plus bas par rapport aux Alpes centrales.
Et on retrouve Marius.
Bonjour, je m'appelle Marius. pourquoi sur les églises au Tessin, il y a des carillons et pas des cloches qui font beaucoup de bruit? Au revoir, bisous.
Ah, il fait une distinction entre la cloche et
oui,
le carillon.
Ça, c'est bizarre, ça. Hein, j'ai jamais noté ça. Mais je peux dire que quand on entend très souvent, ça fait partie aussi de l'influence italienne de la religion catholique, et surtout à midi. Quand le repas est prêt, alors on entend ces sons et il faut aller manger. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, on mange aussi à une heure ou...
Mais ça sonne toujours à midi?
Et oui, à midi, pour. Toujours. Toujours, ça, c'est l'heure pour le repas de midi. Il faut être prêt pour un bon polenta au risotto.
Et on retrouve Gabriel.
Est-ce qu'au Moyen-Âge, il y avait un château au Tessin?
Il y a des châteaux ici.
Oui, il y en avait beaucoup. C'est ce qu'on appelle maintenant une forteresse, parce que les gens n'habitaient pas dans ces châteaux. Il y avait les soldats, les militaires qui devaient protéger, hein, le Tessin. Alors, on a encore 3 châteaux, la forteresse de Bellinzona. On avait aussi un château à Lugano, que ça n'existe plus. Et on peut trouver aussi un château à Locarno et ce qui reste aussi à Morcote.
Mm-hmm. À Charlotte.
Bonjour, je m'appelle Charlotte. J'avais une question. C'est quoi les traditions de nourriture au Tessin?
Est-ce qu'elles se distinguent, ces traditions, des traditions italiennes? Parce qu'on connaît la pizza, la pasta, les pâtes, mais est-ce qu'il y a d'autres choses au Tessin de très typiques?
Absolument. Il y a des choses qui sont pareilles, mais ils sont changés avec le temps. Par exemple, le panettone. En Italie, on le mange seulement pour Noël. Tandis qu'au Tessin, on le mange toute l'année.
Mais c'est parce que les Tessinois sont gourmands.
Oui, absolument. Et puis, on a aussi différents types de polenta. En Italie, on mange la polenta jaune. Ici, on a la polenta rouge, la polenta noire. Il y a des différents polenta. Alors, un peu, les recettes sont changées dans les temps. Et on a aussi le ciambella, que c'est comme un biscuit. La torta di pane.
Et les châtaignes, non? C'est très fameux ici.
Oui. La châtaigne, on peut dire que c'était le pain de la population. Dans le passé, le Tessin était très, très pauvre. Et alors, les gens n'avaient qu'à manger des châtaignes et des polenta. Et on mange encore au mois de septembre, octobre. J'allais toujours avec mes enfants pour ramasser des châtaignes dans le bois autour de Lugano.
Tradition qui ressemble à la brisolée du Valais ou bien du canton de Fribourg. Il doit y avoir quelque chose en lien avec les catholiques. Oui. Et on termine avec Arthur.
Bonjour, je m'appelle Arthur. Pourquoi les restaurants tessinois, ça s'appelle les grottos?
Ça a quelque chose à voir avec des grottes?
Oui, alors ça, ici, j'ai une belle légende à vous raconter, bambini. Alors, il y avait des chèvres dans le passé. Et les gens portaient ces chèvres pour manger dans le bois. Et tout d'un coup, les chèvres ont mis la tête. Il y avait des trous dans les rochers, dans la montagne. Et les chèvres ont mis la tête dedans ces trous. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font comme ça? Et ils ont noté que les chèvres étaient en train de respirer de l'air. C'était comme l'air conditionné naturel qui sortait de la montagne. Alors, on devait imaginer qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Alors, à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient bâtir des caves. Grotto, c'est une cave. Et pour nous, restaurant et grotto, c'est vraiment quelque chose de différent. Hein. Quand on va dans un grotto, ça veut dire qu'on n'est pas dans la ville, on n'est pas dans le centre-ville. Les restaurants sont dans le centre-ville, mais le grotto, ils peuvent être sur les lacs ou dans la montagne, où il y a cet air frais qui sort de la montagne.
Et qu'est-ce qu'on y mange? Alors justement, les produits tipici ticinesi.
Si, certo, un vero grotto. Si mangia polenta, risotto, minestrone, torta di pane, salame, formaggio, formagella.
On a fait une belle publicité pour le canton du Tessin entre l'histoire de Christine Pompéi et puis vos propos. Merci beaucoup Patricia Carminati d'avoir été avec nous dans Boa. Vous êtes présidente des guides de suite italienne.
Oui, merci, un piacere, grazie mille.
Pour préparer cette émission aujourd'hui, il y avait à Lausanne, Steph, Christine, Sandro, Stéphanie, en régie, Sacha. Et ici, à Biontessin, dans les studios de la RSI à Lugano, Robin. Grazie, caro. Allez voir le dessin de Louisa sur le Tessin. Il est super. Il est sur le play de la RTS, là où vous pouvez réécouter Brouhaha en tout temps. La semaine prochaine, vous allez vous dire que j'ai la bougeotte. Ben oui, on sera à la Chaux-de-Fonds. Pour une émission en public à la rue de la Serre, dans un bâtiment du service de la jeunesse, et nous parlerons de ces drôles de rongeurs à longues dents que sont les castors. Alors viens nous voir, c'est gratuit, mais il faut t'inscrire sur notre plateforme RTS avec vous, sous l'onglet émission. Et si tu peux pas venir, eh bien tu peux dès maintenant poser toutes tes questions sur les castors par vocal WhatsApp au 079 610 16 22. Il est bientôt 5h, je vais céder la parole à Pierre-Philippe Cader qui va vous donner les nouvelles de la route et puis qui va poursuivre eh bien, cette suite de journée avec Vertigo, votre émission culturelle. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao.
Infotrafic RTS.
Le trafic est intense à la veille de ce long week-end de l'Ascension. On signale de nombreux bouchons sur les autoroutes A12 à 9 en direction du Valais, dans la descente du toboggan de Châtel-Saint-Denis, dès la Verre jusqu'au tunnel de Glion, sur la une Lausanne-Genève en direction de Genève, sur le contournement de Genève, ainsi qu'à l'approche des douanes sur l'axe Genève-Ost. Les automobilistes patientent 1h30 au péage français du tunnel du Mont-Blanc. Et puis sur la 2 Lucerne-Chiasso, on annonce 10 km de colonne à l'approche du tunnel du Gothard, autrement dit plus d'1h30 d'attente en direction du Tessin. L'inforoute en continu sur notre site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS. L'heure avec RTS Première.
Vertigo juste après les infos que voici, que voilà, il est 17h, à tout de suite.